C'est dans le silence, les vocalises et les applaudissements des improvisations de John Cage et Sun Ra, un disque dont j'aurai l'occasion de vous parler en toute fin d'émission avant qu'on se quitte avec sa face B. C'est donc dans ce silence rompu par la musique de Moondog que nous ouvrons cette émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Radio Grenouille pour une émission spéciale, la seule émission spéciale de notre thématique autour de John Cage. Depuis lundi, en effet, nous nous associons à une vaste manifestation qui a lieu dans divers endroits de Marseille, le CIPM, Montevideo, je ne sais plus trop encore, il y a beaucoup de gens qui participent, des projections, des tables rondes, des concerts. Et par exemple, ce soir même, à partir de 19h, au CIPM, nous aurons une table ronde autour de Cage et sa poétique, avec tout plein de gens que je pourrais citer, Vincent Barras, Daniel Charles, Christophe Marchand-Kiss, Christian Tartin, etc. Et depuis lundi, nous nous associons à cette manifestation en programmant une série de productions sonores originales, qui ont lien à cette thématique, comme vous aurez pu l'entendre tous les matins, tous les après-midi, 9h30 et 15h30, des entretiens issus du livre Pour les oiseaux, des entretiens entre Daniel Charles et John Cage qui ont été retranscrits par Jean-Marc Montera et moi-même. Vous auriez pu entendre aussi, au hasard de la programmation musicale entre deux morceaux, des fenêtres s'ouvrir, des fenêtres ouvertes sur la ville, qui ont été réalisées par Xavier Thomas. Et puis, par exemple, encore hier, une programmation musicale dans le thé dansant de 16h, assez ouverte autour de l'instrument piano préparé. Donc, émission spéciale maintenant. Il est un peu plus de 13h30 et nous allons poursuivre jusqu'à 14h et même au-delà, on peut dépasser. Émission spéciale et très spéciale puisque nous sommes ici pour discuter de la pertinence de faire connaître et redécouvrir l'œuvre et la pensée de John Cage, mais aussi pour en faire l'expérience, pour faire l'expérience même de l'esprit du compositeur, l'expérience de son œuvre peut-être la plus connue, parce que la plus radicale, la plus provocante, la plus bouleversante pour les pratiques artistiques qui l'ont suivie. Je parle de 4 minutes 33 secondes. Ça sera en première partie. Nous aurons en deux secondes parties d'émission une plongée dans une œuvre, alors non plus de Cage, mais autour de Cage, puisque c'est décidément le leitmotiv de tout ce que nous faisons ici. Une œuvre très intéressante car elle emploie la musique de Cage, et d'ailleurs on en a très peu écouté finalement de sa musique, pour en dresser un portrait. Cette pièce a été composée par Cyprien Parvet de Colombey, pardon, qui vit à Marseille et qui nous fait le plaisir d'être présent. Bonjour Cyprien.
Bonjour.
Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir une présence plus rare, celle de Vincent Barras, que j'ai emprunté au CIPM avant qu'il se rende à la table ronde de ce soir. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent Barras vit à Genève, il est historien de la médecine, il est poète sonore, performeur. Il est enseignant aux Beaux-Arts de Genève. Et si toutes ces bonnes et curieuses raisons ne suffisaient pas, il est aussi le programmateur de Roratorio. Roratorio existe toujours, Vincent ?
Roratorio.
Roratorio, donc ça, oui, bien sûr, c'est un titre emprunté à une œuvre de Cage.
De Cage, bien entendu, ça existe. Une association à Genève qui programme une série de lectures-performances dans le domaine, disons, de la poésie sonore et des arts sonores innovants.
Et Vincent Barras est aussi traducteur de Silence, Silence, de John Cage. Silence, justement, commençons par ça. Là, je parle du livre. C'est un livre phare de Cage. Quelle place occupe-t-il dans son œuvre ?
C'est un livre phare qui reprend et compose, je dis bien, compose. C'est pour ça que c'est un livre marquant pour Cage et je pense pour la culture contemporaine. Il compose tous ses écrits, il reprend tous ses écrits théoriques qui datent depuis la fin des années 30 jusque dans les années 60.
C'est un recueil donc.
C'est un recueil d'articles, mais qu'il a recomposé en quelque sorte. Les articles sont comme ça. Au sein même des articles, il y a des procédures d'écriture tout à fait étonnantes, de typographie extraordinaire. Et il a recomposé tout cela en un ensemble où chaque article répond à un autre. Donc c'est une volonté de donner cohérence par des moyens formels et avec des contraintes de la page écrite, du format du livre, à des écrits théoriques. Il y a donc un jeu ou une volonté de travailler plutôt, mais en même temps c'est très ludique, un jeu sur la forme et sur le fond qui se répondent. C'est probablement à cet égard-là une des œuvres les plus intéressantes qui soit, en tant qu'œuvre, pas uniquement comme recueil d'articles théoriques, comme on aurait tendance à le prendre habituellement.
Pourquoi avoir fait le choix de ce livre et puis comment s'est opérée cette traduction ?
Bon, Silence, c'est un livre justement qui est fondamental parce que c'est Cage quand il le compose à plus de 50 ans, donc il y a déjà une œuvre assez importante, c'est devenu un personnage majeur de la musique et plus largement, je pense aussi de la littérature contemporaine à son époque. Et là, ça constitue une sorte de bilan. C'est le premier, d'ailleurs, d'une série d'ouvrages qui seront aussi composés. A Year from Monday suivra quelques années plus tard. Il vient d'être traduit en français aussi. Donc, au moment où je l'ai traduit, il avait fait l'objet d'une traduction partielle à la fin des années 60, début des années 70, comme on dit chez nous, 70 chez vous. Une traduction partielle et il était épuisé. Donc, l'éditeur Hérolimite a décidé de le retraduire, enfin disons de me proposer de le retraduire, ce que j'ai fait. Donc il y avait des raisons objectives et des raisons anecdotiques ou disons occasionnelles et des raisons plus profondes qui étaient celles de rendre justice à un ouvrage composé comme un tout. Donc il me semblait un peu bizarre d'en proposer que des extraits partiels comme dans la version précédente et donc de le donner à lire à un public francophone. C'était vraiment la raison profonde.
Alors c'est un livre quand on le feuillette. Devant lequel on peut se retrouver démuni. Il est composé de différentes typographies, il y a plusieurs sens de lecture. Alors, déjà, comment entrer dans ce livre ? Est-ce qu'il faut connaître la musique de Cage pour s'y intéresser ? Et comment avez-vous pallié à la difficulté de traduction ?
Bon, alors, le boulot du traducteur, ça consiste effectivement à essayer de prendre acte de la multiplicité des dimensions qui, dans le cas de cet ouvrage, est justement tout à fait grande. Il ne s'agit pas de traduire linéairement d'un point A jusqu'à un point B et on s'arrête là, puisque tout ce correspond, c'est un livre, au fond, qui est multidimensionnel et non pas unidimensionnel comme le serait, disons, un roman habituel. Bien que, bien sûr, dans les romans, il y a toutes sortes de dimensions. Ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, il faut y aller avec les moyens du bord. Il faut réfléchir à qu'est-ce que je traduis, sachant aussi que la traduction, c'est de toute façon faire des choix sur ce que je ne pourrais pas traduire. Si je traduis un poème avec une rime de l'anglais vers le français, la rime en français, il y a bien des chances que je doive la laisser tomber. Donc, je fais des choix. De même pour Cage. Et là, la traduction, mais surtout, il faut savoir comment articuler les choix que l'on fait. Par exemple, comment traduire ce qui est fondamental à moi dans cet ouvrage, c'est aussi la dimension typographique. On traduit de la typographie. On ne se contente pas de reproduire simplement, il y a toute une réflexion à faire aussi sur la forme du texte dans la page.
C'est-à-dire que vous voulez dire que le... Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à te vous voyer, mais... Alors, tu veux dire que...
Je suis un peu trop professoral.
La typographie a dû être traduite elle-même dans... Par exemple, on a utilisé d'autres caractères, pour quelles raisons ?
Disons, il y a dû y avoir une réflexion sur... D'une part, parce qu'il y a des caractères que Cage employait dans les années 60, ou a fait employer, il a travaillé à côté du typographe dans les années 60 pour dire « je veux ceci ». Des caractères qui n'existent plus ou qu'on ne trouve pas ici en Europe, etc. Donc il y a déjà rien que vous passez d'un système à un autre, même d'un système informatique à un autre, les formes des caractères, donc il y a déjà une traduction dans ce sens-là. Donc je veux dire, il faut penser la traduction, y compris jusqu'à ce niveau-là, c'est ce que je voulais dire, jusqu'à ce niveau de détail-là. Hein, je ne sais pas, totalement anodin, si je n'ai pas un Helvetica, je ne sais pas quoi, 14... Et est-ce que je mets du 13 ou est-ce que je prends un Geneva pour prendre des caractères suisses, bon, au nom suisse donc il y a une vraie réflexion à faire là aussi et ça fait partie du travail, ça rend justice au travail de John Cage qui fait que cet ouvrage est vraiment tout à fait unique de ce point de vue-là parce qu'il y a une réflexion qui est poussée jusqu'à ce point de détail. Mais aussi sur la forme de la page, vous composez un texte qui a cette forme en anglais, en français du fait de la longueur des mots différente, du coup... Il faut se dire comment j'articule cette dimension liée à la langue anglaise vers la langue française. Et c'est en faisant ce travail qu'on se rend compte à quel point le livre de Cage a été fondamental, justement.
Et qu'il est en lui-même une composition.
Oui.
Alors comment rentrer dans ce livre qui semble avoir semble montrer une écriture très libre, très ouverte, et en même temps qui est très bavard, qui est loin du titre qu'il a choisi finalement.
Oui, tout à fait. C'est un livre qui s'appelle Silence, dans lequel au fond, mais quand il dit Silence, c'est évidemment qu'il y a toujours différents
niveaux.
Et y compris dans ses plaisanteries. C'est une plaisanterie parce que un livre sur le silence où on ne fait que parler, ou enfin en tout cas qui est plein de noir, de choses
noires.
Puis
c'est une tautologie aussi en même temps, un livre qui s'appelle En silence.
Tout à fait. Mais en même temps, alors du coup, on se dit, tiens, je vais regarder le blanc. Et effectivement, Cage a placé les blancs, il a autant placé du noir sur du blanc que du blanc à côté du noir. Donc c'est une façon d'aborder ce livre, par son aspect visuel. On peut aussi, si on est musicologue et qu'on veut comprendre comment Cage à penser ses premières pièces pour piano préparées dans les années 40, il y a des textes théoriques avec un fondement théorique très. On dit là, je me concentre sur le contenu. Ou alors, je m'intéresse, et Cage nous offre au fond 1000 clés possibles, et je crois que toutes les clés possibles sont bonnes pour aborder ce livre. On peut aussi le prendre pour un ouvrage traditionnel, je commence au début et je finis à la fin. On risque d'être un peu dérouté, ou plutôt, je pense qu'on va se mettre un peu au rythme de tiens, je change de style, là c'est des caractères gros, et je pense que quelqu'un qui aborderait ce livre de façon traditionnelle pourrait aussi le faire tout à fait bien, à la condition qu'il se laisse aller à la plume de Cage, qui justement est très variable. Donc toutes les façons sont bonnes, que ce soit celle d'un grand spécialiste ou quelqu'un qui serait même juste amateur, de voir comment composer un livre de façon bizarre comme l'avait fait Cage.
Alors à propos du titre, moi j'ai lu que Cage aurait trouvé ce titre tout simplement en se remémorant une expérience qu'il avait fait des dizaines d'années auparavant, une expérience qui l'a beaucoup marqué dans ses premières années de compositeur, celle de la visite d'une chambre anéchoïque, une chambre sourde.
Oui, ça il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans différents textes qui composent le livre Silence. Cette expérience qui était fondamentale pour lui, le fait de se mettre dans un endroit où se disant il n'y a plus de son. Et qu'est-ce qu'on fait? On entend du son, le son de son cœur, le son, dit-il, même si physiologiquement c'est un peu bizarre, du bruissement de ses nerfs.
Oui, alors il s'attendait, comme on peut s'attendre effectivement, à rencontrer le vrai silence. Et puis voilà, c'est le technicien, l'ingénieur, lui a dit, les deux sons que vous entendez, effectivement, il entendait deux sons, un son grave, un son plus aigu, c'est le battement de votre cœur pour le son plus grave et l'agitation de votre système nerveux pour le son plus aigu. Et d'ailleurs, Cage, il était un petit peu sceptique à ce propos, mais peu importait pour lui, parce que finalement, il rencontrait le fait qu'il n'existait pas de silence et qu'il n'y aurait pas de silence tant qu'il vivrait, et même après sa mort, il y aurait toujours des sons. Donc, si le silence n'existe pas, alors la dualité qu'on rencontre dans la musique occidentale depuis toujours, sûrement pas toujours d'ailleurs, mais enfin depuis qu'elle est écrite, cette dualité son silence ne tient plus.
Tout à fait. Et effectivement, quand Cage intitule « Silence », au fond, il casse le silence, pour ainsi dire, ou il lui rend sa richesse, on peut aussi voir cela comme ça. Je crois que contre la dualité dont tu parles à l'instant, qui effectivement consiste à dire le bruit ou la musique se détache par rapport à un fond qui du coup n'existe plus, qui est nié, Cage réintroduit cette dimension-là, il réintroduit au fond les marges de la page dans la lecture, si on veut, comme métaphore par rapport à Louis. Non. Ce qui est entre les notes est aussi important que la note elle-même.
Voilà, donc c'est en prêtant attention, finalement, en écoutant ce qu'on nomme habituellement silence, qui n'existe pas donc, que Cage a découvert la richesse musicale de ce silence, la richesse en fait de l'environnement sonore. Et en bref, ce qu'il nous dit dans cette pièce de 1952, qui se nomme 4 minutes 33, dont nous allons faire l'expérience tout à l'heure, c'est cela. Avant lui, le silence dans la musique, qu'on l'appelle pause, respiration ou soupir, nous invitait toujours à un arrêt de l'écoute ou à une méditation suivant l'audition de ce qui précède. Cage, lui, il a bouleversé cette hiérarchie pour faire entrer tous les sons dans la musique. D'ailleurs, ça fait poser une question, est-ce que le silence qui suit l'écoute d'une œuvre de Cage est-il encore de Cage ?
Bonne question qu'il faut laisser ouverte.
Je voulais poser, une question à Cyprien, jeune artiste sonore. Je voudrais savoir comment tu as rencontré l'œuvre et la pensée de Cage.
Ah ben j'étais absolument tout à fait très jeune, enfin encore plus jeune qu'aujourd'hui. J'avais, je sais pas, peut-être 15 ans, 15 ans. Mais j'étais déjà très intéressé par la musique classique, disons, enfin, si on peut l'appeler comme ça, la musique savante, qui m'a toujours vraiment beaucoup intéressé. Et en fait, j'y suis venu par hasard. Je sais pas s'il s'agit d'un hasard, puis c'est un hasard tout à fait heureux si c'en est un. Je suis tombé sur Cage par hasard dans un bac à disques où j'ai trouvé des pièces pour piano préparées. Je m'intéresse toujours beaucoup plus particulièrement au piano d'ailleurs qu'à tout autre type de musique. Et je me suis demandé tout de suite, bon j'avais 15 ans alors j'étais encore un petit peu innocent tout ça. Et je tombe sur ça, piano préparé, je dis un petit peu ce qui se passe derrière la jaquette. Bon, je dis pas une collection très très intéressante mais... Peu importe, j'apprends qu'on peut bidouiller le piano, le travailler comme ça. Et comme j'étais déjà plasticien à l'époque, enfin plasticien à cet âge-là, je ne sais pas si on peut appeler ça plasticien. Et je me suis dit, mais c'est drôle, il utilise ça, il fait de la sculpture en fait, il fait pas vraiment. Est-ce que c'est de la musique? Alors j'ai acheté le disque, évidemment, je l'ai écouté chez moi. Je l'ai écouté de nombreuses fois avant de pouvoir me faire une idée. Et avant aussi de pouvoir. Déplacer plus loin mes intérêts sur Cage, disons, au-delà de la musique simplement, pour ce qui est plus généralement du son et encore plus généralement de la littérature, de l'écrit, plutôt l'écrit ou la plasticité finalement de tout son travail, que ce soit dans la musique ou dans l'écriture, c'est à chaque fois des rapports, aux arts plastiques. Enfin, c'est difficile à dire comme ça, mais c'est à peu près ce que j'entends par. Cette espèce de foisonnement dans le travail de Cage qui finalement n'est pas détaillé sur un point, n'est pas, ne se spécialise pas, ne se limite pas plutôt, voilà, ça serait plutôt le terme, ne se limite pas, et plutôt s'élargit sur des champs, mais énormes. Et c'est ce qui m'a tout de suite fasciné chez Cage en fait.
Donc nous écouterons tout à l'heure une pièce que tu as composée, et on va en parler plus longuement, qui s'appelle d'ailleurs...
À propos de John Cage.
Eh bien...
Qui n'est pas composé, en fait, qui est même, comme disait tout à l'heure Vincent, qui serait plutôt recomposé, puisqu'il s'agit peut-être même là aussi, finalement, et là, c'est en écoutant Vincent parler à l'instant que j'en ai pris conscience, ça serait plutôt une traduction, finalement, mais une traduction qui serait dans la même langue que celle de Cage. Donc, c'est pas une réinterprétation, c'est une traduction, oui, ça serait ça, une traduction dans la même langue. Et finalement, l'idée, quand elle est mise sur le papier, quand elle est écrite, c'est Eva Tsvetaeva qui disait ça, une poétesse russe que j'aime beaucoup, et qui disait que finalement, de toute façon, la traduction, c'était vraiment très complexe, dans le sens où déjà, en la traduisant dans une langue, on déformait l'idée, elle était plus très juste. Alors là, finalement, j'essaie d'être le plus honnête possible en traduisant Cage dans sa propre matière, dans sa propre langue et dans sa propre syntaxe.
D'accord, alors nous prenons de l'avance par rapport à la suite. Et entre-temps, donc, je vous propose de faire cette expérience de 4 minutes 33. Peut-être une expérience qui fera tabula rasa, qui va remettre notre audition à zéro. 4 minutes 33, cette pièce a été jouée pour la première fois le 29 août 1952 par le pianiste David Tudor. C'était au Maverick Concert Hall de Woodstock à New York. Et le titre, donc, c'est 4 minutes 33. Il y a trois parties, qui étaient ce jour-là 33 secondes, 2 minutes 40 et 1 minute 20. Et elle fut exécutée donc par David Tudor, qui signala les débuts des parties en ouvrant le couvercle du clavier et leur fin en fermant le couvercle. L'œuvre peut cependant être exécutée par n'importe quel instrumentiste ou combinaison d'instrumentistes et sur n'importe quelle durée. C'est ce que nous allons faire maintenant. Puisqu'on va jouer 4 minutes 33, non pas pour piano, mais pour radio, non pas pour salle de concert, mais pour public d'auditeurs qui sont devant leur poste chez eux, ou en voiture ou dans la rue avec des écouteurs aux oreilles. Est-ce que vous êtes prêts?
Nous sommes prêts.
Je vais prendre
On
mon
le piano.
chronomètre. Je vais aller chercher mon chronomètre. Et j'annonce premier mouvement. Fin du premier mouvement, deuxième mouvement. Fin du deuxième mouvement, troisième mouvement. Fin du troisième mouvement. Je me suis souvenu d'une anecdote, et je ne sais pas si c'est la première fois qu'on joue 4 minutes 33 pour la radio, mais je me suis souvenu qu'il n'y a pas tellement longtemps, en 2004, la BBC en télévision, la BBC 4, a entrepris de produire 4 minutes 33 sur sa chaîne avec un orchestre symphonique, dans une vraie salle, avec un vrai public. Et la difficulté majeure a été d'ordre technique et administrative, en fait, puisque sur les grandes chaînes de radio et de télévision, on ne peut pas faire silence. Parce que dès qu'il y a un silence de plus de 5 à 10 secondes, il y a un système pare-feu, un programme qui se met en route automatiquement pour combler l'antenne et pour pas que les auditeurs soient conscients d'une panne ou zappent. Voilà. Et donc, sur Radio Grenouille, nous n'avons pas ce système. Je dirais bien au contraire. Nous poursuivons avec Vincent Barras qui va nous faire le plaisir et l'honneur de nous offrir une pièce. Tout à l'heure, nous discutions sur comment la pensée de Cage, cette cette proposition qu'il a faite de se mettre à considérer le silence et en fait considérer toutes les manifestations sonores de la vie comme étant potentiellement musicales. Comment cette proposition radicale qui a bouleversé la musique a pu pénétrer, infiltrer nos diverses pratiques artistiques. Vincent Barras est poète sonore, performeur, et ça lui est inspiré la proposition d'une pièce. Alors, Vincent, ce n'est pas une pièce qui a été inspirée directement par Cage, mais de quelle façon, en fait, tu relis ça à la proposition de John Cage?
Oui, disons, je dirais en préambule à la petite pièce qui est un poème sonore que j'ai fait qui s'appelle Hymnop. En préambule, le fait que ce que Cage a influencé, pas pour moi et bien d'autres, hein, vraiment on est beaucoup, je pense quand même sur cette terre, avoir reçu une sorte d'enseignement, en tout cas, avoir été fortement marqué par ce type de pensée.
C'est ça l'illumination
Le truc, le koan, comme on disait, des orientaux, oui. Enfin, Cage, bon, c'est pas mon truc à moi, mais disons, la philosophie orientale, disons, j'y connais rien, je veux pas me prétendre cela, mais... c'est des choses beaucoup plus empiriques et très sensorielles, je crois. Notamment le fait, pour commencer, que Cage n'aimait pas la musique. Hein, il a un titre de ses ouvrages, un titre d'un de ses écrits plus tardif que Silence, qui a été écrit il y a une vingtaine d'années, je crois. Hein, je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Le seul problème avec les sons, c'est la musique. Bon, c'est très provocateur et c'est très drôle. Je trouve rien de plus drôle que cette phrase. Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Le seul problème avec les sons, c'est la musique. En fait, ce qu'il reprochait à la musique, comme institution sociale, mais aussi comme cadre d'écoute de l'oreille, c'est précisément de faire en sorte que l'on se concentre sur la note et pas sur ce qui relie une note à l'autre.
Oui, tout simplement qu'il y avait des sons qui étaient bons et d'autres qui étaient mauvais.
Alors, on peut effectivement, c'est ce que les systèmes, du moins occidentaux, de reproduction de la musique, de l'enseignement musical, ont tendance à faire. Bon, c'est aussi le problème de l'école en général, qui est une école de reproduction et non pas de production. Alors, la pensée de Cage, parmi d'autres, a cet impact politique de faire en sorte qu'on se dise, tiens, la musique elle doit être libérée de son carcan de musique, précisément. Et pas seulement la musique, d'ailleurs, toute autre forme d'art, d'expression artistique, voire même... Certains l'ont pris, peut-être abusivement, parfois, comme une sorte de règle de vie absolue. Hein. Je ne pense pas qu'il faut non plus en faire une religion de la doctrine cageienne, qui n'est pas une doctrine, qui est une incitation à penser par ses propres moyens. Alors, ce que moi, par exemple, je retiens pour ma propre pratique dans ce cadre-là, c'est précisément le fait que l'intention ne doit pas être portée sur... Enfin, si j'ai une pratique artistique, je ne dois pas uniquement produire un objet et en l'isolant de son contexte, produire du noir sur du blanc, si je suis écrivain, en isolant le blanc du noir et oubliant qu'il y a une marge, par exemple, c'est détermination très concrète. Oublie que quand je parle, ce n'est pas uniquement le contenu de ce que je raconte, mais tout le contexte, y compris. Et lorsque je fais ce qui est mon cas, j'essaie de travailler un peu avec la parole, que la parole est aussi faite non seulement de contenu très intelligent ou stupide, hein. Et c'est pas seulement ça, c'est tout ce qui va avec, y compris ma voix, mon corps, mon expérience que je ramène à travers un timbre particulier.
Donc finalement, ça t'a amené à composer un poème qui a à voir avec le souffle, la respiration.
Voilà, un poème qui s'appelle Hymnop, qui est une sorte d'hymne, à un organe particulier qui est le poumon, un des organes vitaux par excellence, puis celui qui est relié, dans la tradition occidentale, le plus à l'idée qu'on se fait de la musique. Alors, ce poème s'appelle Hymnop, qui est une façon de dérouler les lettres du mot poumon. Om no. Om, o, om, no, o, no, o, no, om, boom, boom, n, bo, mn, bo, boom, o, boom, o, bo, m, o, bo, op, om, o, boom. Oppo Nopo, nopo, ou nop, ou no, po, n, opo, nopo. Nopo, nop, o, no, po, n, opo, m, nopo, nop. Nop, no, op, nop, ou, nop, no. Own, do, n, do, own, do, own, d, own, down. Do, odo, odo, o, od, o, o, do, odo, odo, no, do, u. Not o no do n o do no do no do o not o un o do o do o no do o no do o not no o d un od o Nod u, u nod, u nod. O no, own, o, no, o, uno, o, uno, o no. Om no, om, o, om, no, o, no, o, om no, om. Bom. Bom, n, bo, n, bo, un, b, om, bom. Oppo, um, oppo, m, oppo, op, om, o, bom, oppo. Nopo, nopo, u, nop, o, no, bo, n, oppo, nopo. Nopo, nop, o, no. Po, n, opo, nopo, nop. Umnop, umno, umn, op, u, nop, u, nop, umno.
Merci beaucoup, Vincent, pour ce poème.
Essoufflé.
Si tu veux bien, juste un petit commentaire que j'apporterai aux auditeurs, que tu as tourné plusieurs fois ta page pendant la performance, la page où il y a un texte décrit.
Oui, enfin c'est un texte, c'est une typographie dont composant un certain nombre de strophes qui peuvent être lues à l'endroit ou à l'endroit, c'est-à-dire à l'envers de l'endroit qui devient l'endroit. Le D est un P lu dans un autre sens, le W devient un M lu dans un certain sens, le U devient un N, le N devient un U, hein, un croisement. Puis il y a une respiration. En fonction justement du sens de la page, on respire, on inspire, on expire. Et puis le poumon forme, qui est à la fois le contenu de la pièce, donne la capacité de souffle à lire une strophe. Alors il faut remplir de temps en temps le poumon, ça fait du bruit. Et le bruit devient lui-même un élément de la poésie.
Merci Vincent. Je me tourne vers Cyprien Parvet-Colombet. Nous allons parler un peu plus en détail sur cette pièce. On a commencé à en parler tout à l'heure. Après cette expérience du silence pendant 4 minutes 33, qui nous a un peu mis nos oreilles à zéro, nous a rejeté nos manies d'écoute, puis cette performance vocale pleine de rempli et de vide, de bruit et de silence, nous allons aller vers le matériau.
Oui, parce que c'est vraiment le matériau dont il s'agit. J'ai vraiment traité les œuvres pour piano préparé et pour piano jouet de Cage comme une matière première. C'est vraiment, oui, le terme. Une matière première à une forme de composition qui serait de l'ordre du portrait ou... Au départ, j'avais l'intention d'appeler ça un documentaire sonore, mais finalement, le terme m'est apparu assez peu juste et je préfère appeler ça monosonographie, finalement.
Oula.
Alors, ça paraît beaucoup plus
Alors,
compliqué.
parce que tu parles de portrait, alors moi je pense que par exemple 4 minutes 33 secondes, cette pièce connue telle que nous l'avons interprétée, ça pourrait être un très bon autoportrait de Cage. Toi, tu as voulu te servir du matériau,
Oui,
donc.
et je pense que surtout cette pièce, le silence, enfin 4 minutes 33 de silence de Cage, c'est pas, enfin c'est un autoportrait évidemment puisqu'elle rend compte de ses préoccupations en général. Mais je pense qu'elle est au-delà de ça parce que c'est finalement un miroir dans lequel on se retrouve tous, un miroir sans teint, un miroir vide finalement, une espèce de transparence mais qui reflète notre propre silence et ce que nous on est en mesure d'entendre dans le monde qui nous entoure. Donc c'est plus qu'un portrait de Cage en tant que Cage, c'est Cage en tant que nous-mêmes, c'est Cage qu'on peut rencontrer
En tant
partout,
qu'humain,
en
en
tant que...
écoutant.
Voilà, c'est ça. Donc Vincent Barras pourrait dire je suis Cage ou moi-même je pourrais dire je suis Cage, même c'est pas du tout le cas, mais on n'est pas tous des Kennedy à Berlin en train de dire qu'on est tous berlinois, c'est pas la question. Mais on peut tous s'apparenter finalement, se retrouver dans ce silence qui finalement nous est commun à tous. Bon, il y a des gens qui ont un rapport au silence beaucoup plus profond, mais ça, c'est du fait d'une difformité, d'une malformation, peu importe. Enfin, c'est pas de leur faute. Il y a des gens qui sont sourds, qui sont forcés de vivre avec le silence et qui finalement exacerbent ce silence pour percevoir d'autres choses. Et nous, quand on essaie d'entendre, mais plutôt quand on écoute le silence de Cage, parce qu'on l'entend pas, on l'écoute, on entend des choses, évidemment. Là, on entend du Larsen, on entend des bruits de pas, le frottement de barbe, peu importe, on entend des choses. Et ça, c'est la vie, en fait. Et c'est plutôt un portrait, à mon avis, ce qu'a fait Cage avec son silence. Là, je m'éloigne un peu de ce que moi j'ai fait, mais
Justement, c'est pour y
Mais
revenir.
c'est pour y revenir, voilà. Je diverge, mais je vais reverger avec précision. Je crois que voilà, c'est un portrait du monde tel qu'on est amené à le rencontrer tous les jours, que ce soit dans le bruit ou dans le silence, justement. Parce que silence, c'est aussi le bruit, c'est aussi tout ce qui peut s'entendre, finalement. Le silence, c'est qu'une incidence sur ce moment où il n'y a pas de bruit.
C'est tout et c'est rien,
Et
puisque
c'est,
un
voilà,
silence
ça
à fort
englobe.
volume, c'est
C'est du
du
souffle,
bruit,
c'est du bruit.
oui.
Et le silence a quand même son sens quand on l'explique comme ça, je pense. Moi, mon travail était un peu différent, disons. C'est vraiment, oui, c'est un portrait, mais c'est un portrait qui s'est concentré sur une certaine pratique de Cage, puisque j'ai utilisé, comme je le disais tout à l'heure, que la musique pour piano préparé et pour piano joué, en mettant de côté finalement des tas d'autres pièces pour percussion, pour buzzer, pour... Enfin, le catalogue de Cage est très très important. D'ailleurs, je pense pas le connaître dans son intégralité. Je crois pas que tout le monde, enfin, qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre ou dans le milieu de la musique qui puissent revendiquer une connaissance parfaite de toutes les œuvres de Cage, puisque finalement, je suis sûr qu'il y en a encore dans des tiroirs inconnus qu'on ne trouvera peut-être jamais ou qu'on ne jouera peut-être jamais, et qui sont finalement aussi des petits morceaux de silence enfermés, puisque, comme disait Parent Troen, un arbre qui tombe dans la forêt ne fait pas de bruit si personne n'est là pour l'entendre. Et j'aime beaucoup cette phrase de Yann Parent Troen. Bon, il n'y a pas que celle-là, mais celle-ci me touche particulièrement. C'est vrai que ça prend vie avec la société, avec les gens qui écoutent.
Ces pièces pour piano préparé et piano joué, je pense, je ne suis pas sûr, mais que ça correspond aux premières années de composition de Cage,
Oui,
donc
oui,
à un moment où il n'est pas encore en train d'être complètement dans l'indétermination,
oui.
le principe de l'utilisation du hasard, qui va conduire à des œuvres qui se renouvellent à chaque interprétation et qui n'ont plus de pertinence à être édité sur disque aussi. Là, on est encore dans le catalogue que tu as utilisé, c'est encore une production assumée d'œuvres musicales. Le hasard intervient justement dans le fait de placer des matériaux, mais qui d'ailleurs pas placés toujours au hasard, mais dans le piano. Mais on est encore dans une activité musicale traditionnelle. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es tourné vers ce matériau qui serait plus directement utilisable comme matière?
Oui, parce qu'en fait, finalement, la musique pour piano préparé, du moins, même l'instrument tel qu'il est, dépasse les limites de la musique, de l'instrument formel tel qu'on le connaît et tel que les facteurs de piano les fabriquent. Cage réintervient sur ce piano, on fabrique finalement, on conçoit un nouvel instrument. Bon, il s'est basé sur les travaux d'Henry Cowell qui avait développé le piano préparé avant lui, mais Cage est parti comme ça, comme il disait lui-même, sur une promenade à la plage, il ramasse des coquillages et c'est comme ça qu'il prépare son piano préparé finalement. Il cherche voilà, des petits instruments qu'il va pouvoir insérer dans le piano et il fait ses essais. Mais après, je crois le savoir, mais je ne suis pas persuadé finalement, j'ai un doute, qu'il y a une façon de préparer le piano de Cage. Il n'y a pas 10 000 façons de le préparer, sinon évidemment ça ne sonnerait pas du tout comme c'est écrit. Oui. Si on veut jouer la partition, il faut le préparer de la même manière que Cage préparait son piano et ça prend des heures pour préparer un piano.
Oui. Très précises qui font partie de la partition.
Oui, oui.
Voilà. Qui disent tel boulon en métal à 3 inches de la tablature, des choses comme ça.
Voilà, c'est très très précis. Et on est forcé de suivre ces réglementations, là, si on veut reproduire exactement le son de Cage. Mais ça reste quand même une matière sonore très très intéressante, très foisonnante et très très riche, que je me suis plu à utiliser pour mon travail. Et c'est vrai que finalement, ce piano retravaillé n'est plus un piano. Il offre à l'oreille finalement des sonorités qui sont tellement multiples et tellement riches qu'on peut entendre tout ce qu'on veut. Et c'est là où il intervient comme un sculpteur un petit peu qui modifie la matière finalement pour lui donner la forme que lui voit, mais qui sera différente de celle qu'on percevra.
Et ton intervention à toi, elle est de l'ordre de la sculpture aussi?
Un petit
peu. Tu procèdes
peu.
Par collage.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais très bien pu faire un portrait, une peinture, un dessin, n'importe quoi. Non, j'ai voulu utiliser le matériel de Cage, la voix de Cage aussi, puisque moi, je ne parle pas dans ce documentaire, dans cette monosonographie. J'interviens vraiment pas du tout, sauf dans mes choix. C'est Cage qui vient parler ou que je pousse à parler à certains endroits, puisque je ne l'ai pas du tout connu. Je le fais intervenir comme ça entre des tout petits morceaux de ces pièces que j'ai découpés, recomposés, superposés, ralentis parfois, ou dont je ne conserve finalement qu'une harmonie qui se prolonge dans ce qu'on pourrait appeler un silence. Puisque c'est ça aussi finalement, le silence c'est aussi des fréquences qu'on n'entend pas, mais elles existent. Et elles composent cette pièce-là. Alors d'aucuns pourraient parler d'un patchwork de piano préparé, mais c'est pas du tout ça, c'est pas non plus un Reader Digest, c'est pas ça mon propos. C'était vraiment de rendre hommage, parce qu'il a pas besoin de moi pour être glorifié. Cage, il marche très bien tout seul. J'ai voulu, moi, personnellement, m'exprimer au travers de sa musique, en fait, et retranscrire ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais en compagnie de Cage, en compagnie de sa musique, mais finalement, quand il est un peu présent là, quand on écoute sa musique, puisqu'il est là, dans le hasard de la porte qui s'ouvre, et dans la fenêtre qui donne sur un voisin qui a un oiseau qui chante. Enfin, c'est n'importe quoi tout ça, mais c'est ça sa présence aussi, qu'il a voulu donner à la musique en plus, en apportant le matériau son, finalement, qu'il a ajouté à la musique et aux méthodes formelles et classiques et savantes de composition. Et je ne sais pas du tout ce que donne la correspondance entre Cage et Boulez, mais je serais très curieux de la lire et je pense que je vais y venir très prochainement, puisque Boulez refuse absolument le son et Cage, lui, est vraiment le mouton noir là-dedans. Il travaille avec les sons, que ce soit pour oratorio ou... Enfin, je ne le prononce pas bien, encore une fois. Je ne sais pas comment vous dites.
Moi, je dirais roaratorio en français. Roaratorio ou roaratorio en anglais, avec un accent français.
Et en rugissant.
Et bien sûr, il faut rugir pour le dire.
Merci Cyprien Parvet-Colombet, merci Vincent Barras. Je propose aux auditeurs de se caler et de se plonger littéralement dans cette à propos de John Cage par Cyprien Parvet-Colombet. Ça dure 16 minutes. Et 19. Quant à moi, 19 minutes, ça c'est la nouvelle version. Et quant à moi, je vous retrouve après pour parler de la suite de notre programme. Bonne écoute.
But it is not what I have done in the following text. But it is not what I have done in the following text. But it is not what I have done. Thank you. I asked them if they understood their own dreams. I asked them if they understood their own dreams. I asked them if they understood their own dreams. What is clear and concise can't deal with reality. What is clear and concise can't deal with reality. Thank you. that that had too many notes, and that that had too few. Art that is too nose on your face. Satu. Art that is too nose on your face. Satu. Art that is too nose on your face. Satu. Experience of Modernism.
C'était à propos de Cage, de Cyprien Parvet-Colombet. Je remercie encore Cyprien et Vincent Barras d'être venus ici dans cette émission.
Merci à toi.
La thématique autour de Cage continue sur Radio Grenouille tout à l'heure à 15h30 et puis à 9h30 et 15h30 samedi et dimanche pour les entretiens pour les oiseaux. Et puis je vous invite à venir au CIPM retrouver Vincent Barras autour de la table ronde John Cage ou la vie poétique. C'est ce soir à partir de 19h. Il y aura bien sûr d'autres personnes et spécialistes de Cage autour de cette table ronde. Et ensuite des projections de films coordonnées par Marseille Objectif Danse. Voilà, on se quitte avec un disque assez étonnant que d'ailleurs vous pouvez télécharger gratuitement sur ubu.com. On ne dira jamais assez de bien de cette base de données. Et ce disque, c'est John Cage meets Sun Ra. C'était le 8 juin 1986 à Coney Island, à New York. Et John Cage lit des extraits de Empty Words comme interlude. Et Sun Ra improvise au synthé Yamaha DX7. Je vous laisse avec la seconde face. La première, nous l'écoutions tout à l'heure. Bonne écoute et à bientôt.